Et alors, Judas avait dû perdre de vue justement cette chance qu'il avait parce que les exigences de la suite de Jésus lui paraissaient un peu lourdes et il a décroché. Donc, il y a déjà Judas, mais il n'y a pas que lui, hélas. Il n'a pas fini d'annoncer la tradition de Judas que les apôtres sont en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand. Alors, on ne peut qu'être frappé par le contraste entre la gravité de la situation. Voilà, nous sommes au seuil de la passion de Jésus, de sa mort, sa souffrance et sa mort. Et puis, voilà, des disputes sur la préséance, etc. Et puis vient l'annonce, comme ça ne suffisait pas, l'annonce du reniement de Pierre. Alors pourtant, Pierre a plein de bons sentiments à l'égard de Jésus. Ô Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Mais il ne mesure sans doute pas assez sa faiblesse, sa fragilité. Alors je ne sais pas si vous avez essayé d'imaginer le regard de Jésus sur Pierre justement après le reniement. Après que le coq chante, je ne pense pas que ce soit un regard de colère ou un regard accusateur. C'est plutôt un regard de tristesse, un regard douloureux. Mais au-delà de Pierre, je pense que ce regard de Jésus nous atteint tous dans notre péché. Parce que le regard de Jésus sur nous, alors quelquefois on voudrait peut-être fuir ce regard de Jésus, mais ce n'est pas un regard accusateur, ce n'est pas un regard pour nous enfoncer, pour dire « Ah, je l'avais bien dit ». C'est un regard douloureux de celui qui nous aime et que nous avons trahi. Et je pense que c'est important de nous laisser rejoindre par ce regard pour prendre conscience du poids de nos péchés. Pour avoir peut-être un plus grand regret de nos péchés. C'est le curé d'Ars qui disait, bon, quelquefois on se confesse à la vapeur, je crois que c'est son expression, voilà. Et puis voilà, on fait une énumération, mais est-ce qu'on regrette vraiment? Alors se laisser rejoindre par ce regard de Jésus qui est souffrant. Et ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a encore le sommeil des apôtres quand Jésus est en pleine agonie. Et cette agonie est difficile, lourde. Et l'attitude de ses disciples à ce moment-là, il les trouva endormis, accablés de tristesse. Quelle solitude que celle de Jésus! Alors ça, c'est pour ses amis. Et Jésus aurait toutes les bonnes raisons pour se décourager, dire « bon, j'abandonne, j'en ferai jamais rien ». Et puis il y a un autre groupe, une autre série de personnages, et c'est ceux qui jouent avec Jésus en quelque sorte. On a l'impression que Jésus est comme un colis qu'on se passe l'un à l'autre. Alors voilà, d'abord c'est les grands prêtres qui viennent l'arrêter, conduits par Judas, pour se saisir de Jésus. Et puis après, bon, il y a les soldats, bien sûr, mais après, donc, il va chez Pilate, Pilate l'envoie chez Hérode, il revient chez Pilate, et puis finalement, Pilate le donne au grand prêtre, comme s'ils sont contents. On a l'impression vraiment qu'ils disposent de lui, comme s'il leur appartenait. Et c'est Jésus qui laisse disposer de lui. On voit l'humilité du Fils de Dieu. Comme il l'avait déjà dit, hein, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la livre. Et Jésus laisse disposer de lui. Alors parmi ces personnages, il y a Pilate, entre autres. Et il dit à plusieurs reprises, je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. Et voilà, il se laisse prendre dans le grenage de l'injustice par lâcheté, tout simplement. Alors il se fait de nouveau ami avec Hérode, sur le dos de Jésus. Après il relâche Barabbas. Et puis après finalement, alors qu'il voit toujours aucun motif de condamnation, il propose de le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Et puis comme ça ne suffit pas, bon, allez, vous le prenez. Et puis... et l'expression de l'évangile, il livra Jésus à leur bon plaisir. Jésus livré au bon plaisir des hommes. Et puis au moment près de la croix, les chefs qui tournent Jésus en dérision, ah, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Et puis les soldats, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, ils disent la même chose. Ah, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et le mauvais larron, si on l'appelle comme ça, il prend le même refrain. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Et alors ? Alors ça, c'est une parole propre à Saint-Luc. Devant tout cet acharnement, ce déferlement de haine et d'humiliation, il y a cette parole de Jésus tout à fait déroutante, qui n'est pas dans la logique humaine. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, alors donc là, bon, les disciples, c'est pas très brillant, les grands chefs des prêtres, Pilate, Hérode, les soldats, c'est pas brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, troisième série de personnages, les personnages un peu plus sympathiques d'une certaine manière. Il y a d'abord Simon de Cyrène. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Alors au point de départ, il ne l'a pas voulu, hein. On ne lui a pas trop laissé le choix. Mais finalement, on voit que Simon de Cyrène s'est laissé émouvoir. Après, on retrouve ses fils qui font partie de la première communauté chrétienne. Donc quelque chose s'est passé en lui. Et puis il y a celui, alors que nous trouvons chez Saint-Luc, l'évangéliste de la miséricorde, qu'on a coutume d'appeler le bon larron. Bon, au point de départ, il n'était pas si bon que ça, il le reconnaît lui-même. Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et alors, ce bon larron, finalement, s'ouvre à l'amour de Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Alors, pour Jésus, ça, je pense que c'était un réconfort très grand de voir cet homme qui, en quelque sorte, croit en lui à ce moment ultime. Et je pense à Simon de Cyrène, au bon larron. C'est pas eux qu'on imaginait proches de Jésus. Et finalement, c'est peut-être ceux qui font preuve d'humanité à l'égard de Jésus et qui le rencontrent à ce moment ultime. Alors, en conclusion, je nous laisse une question. Comment nous situons-nous par rapport à Jésus ? Comme les disciples qui l'abandonnent ? Comme ceux qui le maltraitent ? Ou comme ceux qui font preuve d'humanité ? En ayant présent à l'esprit que Jésus est présent aujourd'hui dans la personne des pauvres et de ceux qui souffrent. Alors, comment nous situons-nous ? Et puis, d'une manière très, très concrète, en plus de relire la Passion, n'hésitez pas à dépoussiérer un peu les crucifix qui sont dans votre maison quand vous mettrez un rameau de buis avec, que cette croix fasse pas seulement partie des meubles, en quelque sorte, mais voilà, que ce soit un signe vraiment signifiant dans votre maison. Alors demandons cette grâce de garder les yeux fixés sur le Seigneur qui s'est donné par amour pour nous. Tous les saints, c'était quelque chose d'essentiel dans la vie de la plupart des saints, ce regard sur Jésus souffrant et offrant sa vie pour nous. Il suffit de citer le curé d'Ars, Catherine de Sienne, bien d'autres. Voilà, alors demandons cette grâce cette semaine de nous laisser pénétrer. C'est la semaine ou jamais de le faire. On aura tout le temps pascal pour méditer sur la résurrection de Jésus, mais on ne peut pas méditer sur la résurrection sans auparavant avoir médité sur sur la passion et la mort de Jésus. Amen.